Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler ce qui se passe sur les scènes à Bruxelles. J'ai à mes côtés Nico,
bonjour. Salut.
Nico, et j'ai Catherine et Elisabeth qu'on aura au bout du fil. Alors au programme de cette semaine, un peu de théâtre politique. On ira voir du côté de l'immigration, la tragédie des immigrés qui prennent des rafios et qui s'égarent tragiquement en mer, Le mouton et la baleine de Yasmina Douyeb au théâtre Océan Nord. On ira à Place Tiananmen, tiens, Je pense à You de Carole Fréchette, mis en scène par Vincent Goutal, ce que Nicolas est parti voir pour nous hier soir. On ira du côté du métissage, à voir un parent blanc et un parent noir n'a pas été si évident que cela. Crise d'identité dans Quaeri, Estelle Marion au théâtre Varia. Et puis on ira dans la poésie de Pessoa avec Miroir d'Elvire Prison au théâtre des Martyrs. Mais là, je me retourne vers Nicolas. Donc toi, hier, tu es parti voir la première, Je pense à You, Carole Fréchette et le français Vincent Goutals.
Carole Fréchette, auteure québécoise, qu'on a déjà pu voir chez nous avec d'autres textes. Ici, c'est une de ses dernières créations, et une création qui connaît un gros, gros succès mondial, puisque rien que cette saison, c'est déjà la cinquième création de ce texte. Après le Québec, il a été aussi créé récemment en Allemagne, et donc, on était un peu, on avait un peu envie de voir ce que ça donnait. Je pense à You, ça nous ramène vers la Chine, mais ça nous ramène d'abord vers le Québec, et une histoire... Carole Fréchette est partie de son expérience personnelle. En 2006, dans un journal, elle tombe sur un entrefilet qui parle d'un certain You, un You Dong Yue, comme ça. J'ai essayé de dire bien parce que le chinois, c'est pas ma tasse de thé. Mais enfin, ce You, en fait, est libéré d'une prison pékinoise. Depuis 20 ans, il y était pour avoir, lors des événements Tiananmen en 89, souillé le grand portrait de Mao sur la place avec des œufs remplis de peinture rouge. Alors, on pense bien, il avait touché à l'icône, l'idole de tout un pays, de toute une nation, de tout un empire communiste. Et elle va partir de cela pour revenir aussi au retentissement de cette histoire aujourd'hui. Et c'est le même point de départ que son héroïne, interprétée par Anne Claire, qui s'appelle Marie-Madeleine, et qui est en fait une traductrice qu'on retrouve dans son appartement, un peu enfermée, et surtout très déprimée. Elle vient de passer quelques années, quelques mois en voyage, et a connu des histoires sentimentales qui se sont pas très bien terminées. Et elle va, elle aussi, découvrir dans ce journal cet entrefilet qui parle de ce fameux You. Alors... plus parce qu'elle n'a pas envie de se consacrer à son travail qui est celui d'une traduction d'un rapport d'un ministère sur les déchets qui l'ennuie profondément, elle va commencer à s'intéresser à cette histoire et en même temps elle va se dire « Tiens, j'ai pas entendu parler de cette histoire, qu'est-ce que je faisais à cette époque lorsqu'il y a eu les événements Tiananmen ?» Elle se souvient, elle, en effet, des événements Tiananmen, elle avait même un poster de Mao dans sa chambre et elle retourne dans ses carnets, dans ses journaux intimes pour aller découvrir un petit peu quel était son état d'esprit. Bon, elle avait la trentaine, elle connaissait diverses histoires d'amour, elle essayait de s'installer avec quelqu'un. Bref, se replonger dans son passé, ça ne l'aide pas dans sa déprime, c'est-à-dire qu'elle replonge un petit peu, mais elle se sent habitée par ce récit. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle commence à se fermer du monde parce qu'elle est prof de français particulier pour une jeune chinoise, justement, qui vient l'ennuyer un petit peu avec toutes ces questions sur le futur, le passé, le futur antérieur. Et aussi, elle vient se faire importuner par un voisin qui lui amène un colis qui est arrivé chez lui par erreur. Et on découvre que ce voisin, interprété par Philippe Vauchel, lui aussi une histoire personnelle assez dramatique. C'est-à-dire qu'il était marié, mais sa femme l'a séparé séparer à cause de le trop attachement un petit peu de leur fils unique. C'est vraiment un fils apparemment qui avait un problème psychologique et qui n'arrivait pas à se détacher de ses parents. Il lui fallait être là 24 heures sur 24 et accroché à eux, dormir avec eux. Et la femme n'a pas supporté. Mais il a l'air, ce personnage, justement, d'être un peu la touche de légèreté dans ce spectacle, en disant, ben voilà, la vie continue, j'adore mon fils, maintenant il est en institution, mais je l'aime toujours autant, et voilà.
Justement, on voit donc l'histoire de Yu de Tiananmen, et alors les trois histoires, chacun individuelle, comment cela s'imbrique? Est-ce que la lisibilité sur scène pour le spectateur, est-ce qu'on passe de Mao aux vies individuelles, comment cela se passe?
Alors, on reste vraiment dans le présent, c'est-à-dire dans ce présent où ces trois personnages se côtoient dans cet appartement, et en fait, comment c'est lié? Ben, Anne-Claire, donc le personnage d'Anne-Claire, va se dire, tiens, qu'est-ce que tout le monde faisait alors qu'on n'a pas entendu parler de ce You, pourquoi on n'en a pas entendu parler alors qu'il avait fait un geste? Alors tout le monde se fait l'histoire, pourquoi a-t-il fait ce geste? Qu'est-ce qui l'a motivé à faire cela? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme on nous l'a dit? Chacun va faire un petit peu ses recherches et ses suppositions, et finalement, à force de faire des suppositions sur le passé, chacun va faire des suppositions sur son passé, se repencher sur sa propre histoire. Anne-Claire sur ses déceptions amoureuses et sur son engagement, et Philippe Vauchel, le personnage de Philippe Vauchel, qui va aussi se repencher sur sa séparation qui finalement, on se rendra compte, le touche vraiment et ne passe pas au-dessus de lui. Et la petite chinoise, ben elle avait 5 ans à l'époque, elle découvre seulement cette histoire, elle dit elle-même qu'elle a quitté la Chine parce qu'il y avait trop d'histoires, donc au début elle ne veut pas trop en entendre parler, parce que surtout que les Occidentaux ne peuvent pas comprendre ce qui se passe en Chine. Et donc c'est aussi un spectacle sur les convictions, convictions personnelles et convictions politiques, jusqu'où peut-on aller avec ses propres convictions. Et on se rend compte, au final du spectacle, quelle est la véritable histoire qui entoure ce You. Ça, je ne vais pas vous la dévoiler, évidemment. Et comment aussi est la véritable histoire de chacun, et que tout le monde est évidemment profondément touché par cette histoire et par son propre vécu. Alors, c'est habilement. Vincent Goutal, ça amène ça assez simplement, subtilement, mine de rien, sur scène, avec... Donc on est dans un intérieur d'appartement très stylisé, en tout cas très simplifié, avec un fond de mur qui sont des draps blancs étendus, et la porte d'entrée c'est un drap qui se soulève et qu'on tire un petit peu. Et la construction de l'histoire de You va être symbolisée un petit peu par la construction d'une bibliothèque, puisque Marie-Madeleine, là, elle est un peu entre... elle n'arrive pas à s'installer dans cet appartement, donc tout est encore comme à l'arrivée d'un déménagement. Et elle va demander à son compère Jérémy de venir construire cette bibliothèque. Et cette bibliothèque va se construire, et jusqu'à un climax où elle va... tomber, et c'est amené vraiment très subtilement. C'est vraiment dans cette simplicité qu'on retrouve la beauté de cette pièce. Pourquoi? Eh bien parce qu'au départ aussi on est un petit peu refroidi par une première demi-heure assez laborieuse, j'ai dire, parce que Anne-Claire est toute seule sur scène et elle replonge dans ses journaux intimes, et c'est fait de manière assez plate malgré toute l'intensité qu'elle essaie de mettre. On sent qu'elle essaie de jouer la femme déprimée, mais la première demi-heure est aride à cause d'un texte un peu trop télégraphique, style journal intime justement, qui est un peu difficile d'accès, qui n'arrive pas à nous faire rentrer profondément dans l'histoire dès le début.
Ça, c'est la première demi-heure, et le spectacle dure...
Et après, justement, avec cette construction scénique, c'est 1h45 un petit peu à peu près, de spectacle. Grâce à l'arrivée des autres personnages, là, on arrive à construire quelque chose.
À une dynamique. Donc, je pense à You, donc c'est le rideau de Bruxelles installé momentanément...
Sans doute. À l'XL Théâtre.
Voilà, un théâtre qu'ils visent, on espère qu'ils l'auront. Donc,
un lieu sympathique,
l'XL Théâtre.
En tout cas. Jusqu'au 9 février, www.rideaudebruxelles.be. Et donc, Anne-Claire, Yuan Li et Philippe Vauchel, avec une belle légèreté amenée par Philippe Vauchel.
Voilà, alors de Je pense à You, on va à un autre débat sujet politique. Le mouton et la baleine de Ahmed Ghazali, mis en scène par Yasmina Douyeb à l'Océan Nord, que Catherine a vu pour nous.
Oui, l'océan Nord qui nous emmène en pleine mer, c'est un petit peu logique. C'est d'ailleurs ce qui frappe d'emblée dans cette pièce, c'est le décor. Donc le plateau a été transformé en mer par des vagues de vêtements qui jonchent le sol. Donc ça fait comme ça une mer de tissus. Et au milieu de cette mer de tissus, une plaque de tôle qui tangue et qui évoque donc un cargo russe qui va, dans l'histoire de Ahmed Ghazali, heurter une embarcation de migrants clandestins. Ils vont tous périr, sauf une qui va être hissée à bord. Et c'est le point de départ de cette histoire, puisque le cargo, ce cargo russe, ne sait pas quoi faire d'abord de ce tas de cadavres et de cette rescapée, et va donc contacter les autorités espagnoles, marocaines et anglaises, puisqu'ils sont dans le détroit de Gibraltar, pour essayer d'accoster et de rendre ces corps. Mais pas de bol, on tombe en pleine fête du mouton. Et les autorités marocaines ne sont pas disposées à répondre à sa demande. Et donc, la pièce dure en fait toute une nuit, la nuit que passe ce bateau dans le détroit de Gibraltar, avec donc des personnages qui se croisent, le capitaine du bateau évidemment, mais des marins aussi qui sont occupés à une chasse à l'homme, plutôt une chasse à la femme, puisqu'il y a en plus une autre passagère clandestine qu'ils appellent la négresse et qui vont traquer sans relâche. Là non plus, je vous dis pas comment ça va finir. Il y a aussi un couple, une Française et un Marocain d'origine qui ont voulu en fait faire une traversée exotique et se sont dit allez, on va faire la traversée en cargo plutôt que de prendre l'avion, et vont se retrouver mêlés à toute cette histoire avec en plus une histoire de déracinement, de choc des cultures dans ce couple. Et un médecin aussi, un médecin un peu solitaire et un petit peu déboussolé.
Donc Catherine, si je comprends bien, c'est vraiment rythmé de moult personnages dans un bateau avec des va-et-vient et chacun dans son tourment.
Voilà. Alors ce qui marche très bien, c'est le décor, comme je l'ai dit, parce que sans aucun mot, on comprend la métaphore hein, de toutes ces âmes qui ont péri en mer pour avoir voulu faire la traversée et chercher un avenir meilleur, hein, pour avoir tenté d'atteindre l'Europe. Donc ça c'est très bien, je trouve très bien évoqué. L'autre bonne idée c'est d'avoir fait appel à un groupe de primo arrivants, donc un groupe de chanteurs et musiciens qui sont en fait dans cette mer de tissus et qui vont de temps en temps émerger et chanter, jouer de la musique, et ça fait comme un chœur de fantômes qui hante un petit peu la conscience de ces passagers qui voudraient bien ne pas voir cette réalité-là, mais qui sont confrontés le temps d'une nuit. Donc ça, c'est tout ça, ce sont des très bonnes idées. Et après, bon voilà, il y a une belle brochette de comédiens. Il y a notamment Soufiane El Boubsi qui joue ce personnage de Marocain qui en fait a lui aussi en son temps fait cette traversée clandestine et sa compagne ne le savait pas, donc voilà, certaines vérités vont être dites.
Est-ce que c'est une pièce qui met mal à l'aise?
Non, parce que c'est assez poétique, il y a un petit peu d'humour. En même temps, c'est un thème qui pourrait être dérangeant, mais le théâtre est un petit peu obsédé par ce thème-là. Hein. En ce moment, l'immigration, on en parle beaucoup au théâtre. Et tant mieux, hein, puisque le traitement médiatique qui en est fait bien souvent ne vole pas très haut, alors que là, ça humanise un petit peu le débat sur, sur ces personnes qui tentent de chercher ailleurs une vie autre. Donc, c'est pas une pièce qui met mal à l'aise, c'est une pièce qui se laisse regarder avec, comme je l'ai dit, des bons comédiens. Il y a notamment Benoît van der Slaar qui joue un des marins très aigri et qui en fait a trouvé dans la haine de l'étranger une sorte d'exutoire à son mal-être. Donc ça c'est pas mal parce que je trouve que ça reflète bien une réalité qu'on rencontre ici hein, au niveau du racisme. Donc ça dit beaucoup de choses en filigrane. Ça fait un peu pièce à thèse par moment, un petit peu justement parce qu'il y a ce côté socioculturel avec le cœur de musiciens et chanteurs de primo arrivant. On atteint une certaine poésie. Et la présence de ces personnes hein, qui sont pour la plupart réfugiés, sans papier, ça donne en fait une substance plus forte et plus concrète à la pièce. C'est une pièce qui, pour moi, vaut le détour, qui a quelques faiblesses, notamment au niveau du rythme, hein, ça met du temps à démarrer. mais qui se laisse regarder et surtout qui comporte de très très bons comédiens.
Ok. Le mouton et la baleine, alors, à l'Océan Nord, Yasmina Douyep, texte d'Ahmed Ghazali. Catherine, c'est jusque quand ?
C'est jusqu'au 26 janvier à l'Océan Nord, mais ensuite ça reprend à l'atelier 210 du 30 janvier au 1er février. Et puis ce sera aussi à Tournai et à Charleroi.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
On se retourne directement vers le téléphone encore une fois pour aller rejoindre Elisabeth qui a vu pour nous Miroir de Pessoa au théâtre des Martyrs, mise en scène d'Elvire Brison. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors Poésie Pessoa ?
Poésie Pessoa, mais loin d'être un martyr parce que c'était vraiment un petit bijou de spectacle pour ceux qui aiment bien sûr un théâtre littéraire, un théâtre de texte. Alors pourquoi ? Parce que Pessoa c'est d'abord un poète, un essayiste. C'est un peu un de ces écrivains qu'on connaît, mais il faut bien dire qu'on n'a pas lu généralement. Hein, c'est des tout grands écrivains. Alors c'est l'occasion de se familiariser ou de goûter un petit peu à cette œuvre qui est à la fois complexe, paradoxale, puisque en fait Pessoa s'est développé ce qu'on appellerait aujourd'hui des avatars, des sortes de doubles. Et la théâtralisation proposée par Elvire Brison à la mise en scène et Paul Aymon à l'adaptation est en fait d'incarner ces doubles de Pessoa et de les mettre en dialogue. Donc c'est déjà quelque chose d'assez théâtral. Et le terme incarné a tout son sens parce que on est dans quelque chose de très réflexif. C'est une réflexion sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le songe, qu'est-ce que sont les rêves, que sont les rêves et tout ça. Mais ça ne flotte pas, ça ne plane pas, c'est incarné, parce qu'en fait c'est incarné par une fameuse brochette de comédiens. Il y a Emmanuel de Kooning, John de Brinin, Itzik Elbaz et Hedwig Stéphane. Et chacun avec un registre différent, puisque Pessoa a en fait défini des doubles qui ont chacun une caractéristique bien principale. Il y a le cynique, il y a celui qui est plus nature, qui est plus enfantin, qui est plus en communication directe avec les choses. Et l'adaptation de Paul Aymon fait entrer en dialogue toutes ces parcelles de lui-même. Et ce qui fait que c'est un véritable régal, encore une fois, pour quelqu'un qui aime les textes, qui aime un théâtre où il faut écouter, bien sûr. C'est 1h25, mais c'est 1h25 de pur plaisir pour, encore une fois, des esprits un petit peu littéraires. Mais franchement, l'écoute, elle est tout à fait là. On ne s'ennuie pas. Et ça vaut, je trouve, d'un point de vue théâtral, deux petits morceaux d'anthologie. Il y a un solo d'Hedwig Elbaz qui est une évocation de la mer, quelque chose comme ça, de très habité et tout. Dans un registre, un texte assez long, mais on n'en perd pas une goutte. Et alors, il y a un moment de duettiste entre Hedwig Elbaz et Emmanuel de Kooning, où ils sont dans un texte qui vire sur l'absurde, un petit peu comme ça, mais qui est à la fois très, très drôle, tout en finesse. Voilà. Et il y a aussi une ponctuation musicale de Renaud Dardenne, donc qui est là à la guitare, qui vient de temps en temps souligner quelque chose dans le texte qui s'efface quand il faut. Enfin, c'est vraiment un très joli spectacle proposé dans un très joli décor aussi. Donc, que demander de plus ? Pour moi, c'était parfait, surtout si on aime un théâtre un peu littéraire.
Moi, ça m'a tenté, j'irai voir. Mais de toute façon, quand tu expliques les monologues, on va dire les monologues avec chacun, le cynique, oui, la nature et tout, ça a, oui, quelque chose de très efficace comme kaléidoscope.
C'est tout à fait efficace, c'est tout à fait théâtral. Et en plus, on a vraiment cette belle langue. Et c'est aussi quelque chose qui est assez proche de nous parce que c'est des questions qu'on peut se poser. Même si c'est effectivement de la philosophie, ben c'est la philosophie à notre niveau finalement. C'est, mm-hmm, qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce que c'est rêver, qu'est-ce que c'est d'exister, qu'est-ce que c'est cette finitude et tout ça. Donc ça, pour moi c'est vraiment, et je crois que c'était une réflexion que j'ai entendue d'une spectatrice au moment où ça s'est terminé, et qui disait, ah ben voilà, on est nourri, et c'est effectivement ce que moi j'ai ressenti.
Mm-hmm. Donc un petit coup de chapeau à Elvire Brison encore une fois, et une belle palette, oui, oui, de comédiens effectivement.
C'est sûr que cette incarnation par les comédiens, qui sont des comédiens de calibre quand même, mm-hmm, et donc voilà, il y est pour quelque chose, parce qu'encore une fois, ça ne flotte à aucun moment, et il y a cette langue qui est là toujours, et ça donne envie de se précipiter sur un bouquin de Pessoa et d'enfin le lire. Mm-hmm.
Et je suppose que c'est la petite salle, hein, des martyrs.
C'est la petite salle des martyrs, mais qui était déjà bien pleine, donc je pense que mm-hmm, le spectacle, bon, il va avoir un bouche-à-oreille assez rapide. Mmh. Bien sûr, mais tout à fait mérité.
C'est à voir jusqu'au 9 février dans la petite salle des martyrs, www.théâtredesmartyrs.be.
Merci Elisabeth, à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine, au revoir.
Voilà.
Allô, allô, autre coup de fil. Voici la magie de Radio Campus. Ils vont chercher les critiques là où ils sont. Catherine, on te retrouve donc après le paquebot. Cette fois-ci, tu es partie voir pour nous le monologue d'Estelle Marion, Quaeri, au Théâtre oui. Varia.
Qui nous fait voyager lui aussi finalement. Quaeri, ça veut dire au revoir en swahili. C'est un seul en scène, enfin pas si seul parce qu'il y a des musiciens, mais c'est comme tu le dis, un monologue d'Estelle Marion. Comédienne que l'on connaît bien sur nos scènes et qui, aujourd'hui, à la soixantaine, décide de faire un spectacle autobiographique sur son parcours de métisse. Donc, en fait, elle est née d'un père belge qui a rencontré une Rwandaise. Elle est née donc au Rwanda. Elle a passé son enfance là-bas, a été rejetée parce qu'elle était métisse. Est venue vivre quelques années en Belgique et puis ensuite a fait des allers-retours entre l'Afrique et la Belgique. Et c'est ça qu'elle raconte, mais elle raconte surtout la difficulté d'être dans cet entre-deux, donc la difficulté de cette double appartenance, le fait que, parce qu'elle est née à une époque douloureuse, quand on était noir, à l'époque coloniale, la partie africaine de sa culture a été amputée. On lui a dit que c'était une culture inférieure à celle des Blancs. Donc, tout un processus qui l'a handicapée, en fait, toute sa vie.
Comme beaucoup, hein.
Elle revient dessus. Oui.
Comme beaucoup, hein, le métissage a posé et pose encore un trouble d'identité et de regard de l'autre, hein, vis-à-vis des Blancs, vis-à-vis des Noirs et vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des Blancs, quoi.
Tout à fait. D'ailleurs, ce qui est très bien dans ce spectacle, c'est qu'elle elle dit qu'il y avait du racisme des deux côtés. Hein. Donc, elle a été, quand elle était en Afrique, elle était considérée comme une blanche et ici, elle est considérée comme une noire. Mais en fait, je dirais que ce qui est le plus intéressant dans ce spectacle, c'est le débat qui suit après. Donc, ça dure à peu près 1h15, 1h20. Et puis ensuite, elle revient sur le plateau et elle discute de manière informelle avec le public. Alors, il y a évidemment beaucoup de métis qui viennent voir ce spectacle et c'est très intéressant parce qu'on remarque que les métis ne le vivent pas de la même manière selon la génération à laquelle ils appartiennent. Donc les plus jeunes considèrent que c'est moins une question aujourd'hui que ça pouvait l'être pour les personnes comme Estelle Marion. Mais c'est très intéressant, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui font des coups de gueule. Donc en fait ça provoque le débat et c'est ça qui est super, sinon... Théâtralement, il n'y a rien de novateur. Elle est seule sur scène. Il y a deux musiciens, donc Manu Gallo et Marc Hérouet. Ça, c'est très bien fait parce que ça enlève le côté un peu narcissique hein, de ce seul en scène qui parle d'elle, qui parle de tout son parcours et qui le jalonne de repères historiques. Donc,
Catherine, de Mary Strip. Oui. Un petit mot peut-être sur le texte. Je vois qu'elle l'a emprunté à divers auteurs, hein, certains passages. On pense à Toy Derricotte, poétesse du Michigan, des poètes aussi africains qui ont tous été confrontés, ou en tout cas au métissage. Comment c'est construit alors ? Est-ce que, parce que tu dis qu'elle raconte son histoire, elle amène ces moments de poésie comme en musique ?
Ah bah c'est un long monologue. Parfois elle chante, elle chante d'ailleurs aussi en swahili. Et parfois, en effet, elle insère ses poèmes, mais c'est très fluide. Elle ne dit pas, maintenant c'est un poème de machin ou machin. Ça coule comme ça et ça donne, c'est vrai, une couleur plus universelle à son propos. Mais elle raconte beaucoup son histoire. Et puis surtout, on se rappelle de tous ces moments, par exemple l'assassinat de Lumumba, le Vietnam, la naissance du Black Power, Martin Luther King, elle chante évidemment le Strange Fruit de Billie Holiday. Ça part un peu dans tous les sens. On n'apprend pas grand-chose, hein, surtout sur le thème du racisme. Mais c'est très émouvant parce que voilà, c'est son histoire, parce qu'on sent que c'est encore à fleur de peau, que c'est important pour elle, que c'est un peu une douleur qu'elle exorcise avec ce spectacle, même si elle dit qu'elle ne veut pas en faire une psychothérapie, mais quand même, voilà, on sent que c'est une libération pour elle, ce spectacle, et ça le rend d'autant plus émouvant.
Mais c'est ça aussi l'artiste, hein, c'est montrer sa fragilité, aller sur scène et se raconter. Mais Catherine, tu disais, le côté narcissique, tu le sens ? Parce que comme l'expliques, il n'y a pas ce...
Non, je pense que ça aurait pu être narcissique, mais parce que il y a ces deux musiciens qui sont là avec elle sur scène, ça ne l'est pas. Ça parle d'elle, mais c'est pour parler d'un problème plus général, d'une question plus générale. Donc non, ça n'est pas. C'est une sorte de théâtre documentaire, en fait. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est une comédienne qui a joué dans Rwanda 94, de Del Cuvelry. Donc, voilà, on retrouve un petit peu de cette patte-là. C'est un monologue à voir parce que c'est très beau, en fait. Voilà, c'est pas du grand théâtre, c'est pas hyper créatif, mais c'est juste beau.
C'est à voir jusque samedi, je pense. Hein.
Oui, c'est ça, jusqu'au 26 janvier. Et d'ailleurs, le 26 janvier, il y aura toute une journée de rencontres avec plein d'écrivains.
Comme Jean Boffane.
Très intéressant.
Comme Jean Boffane. Donc, la question métisse est dès 15h ce samedi, avant le spectacle, avec une brochette d'intervenants, dont Jean Boffane, qui a fait les mathématiques congolaises, un livre que je recommande.
Estelle Marion, Manu Gallo et Marc Héroué, hein, puisque c'est un trio sur scène, c'est à voir donc jusqu'à ce samedi au Grand Varia, www.varia.be. Quelques petites annonces pour terminer.
Petites annonces au Burskoburg, la scène flamande au centre de Bruxelles. Ils font un programme un peu taré qui s'appelle Private Investigation. Alors, c'est des performeurs, des installations, expos, un peu tous les arts pluridisciplinaires sur l'idée du recyclage. Chacun est parti à recycler une œuvre ou un objet et s'approprie en font une œuvre théâtrale. Juste pour dire que vendredi, il y a un francophone égaré là-dedans, le français Antoine Defort, qui fait des spectacles, conférences un peu décalés, un peu allumés, mais un peu dadaïste. Et ici, il fait sur la question de qu'est-ce que l'originalité. Donc voilà, ça risque d'être bien loufoque. C'est jusqu'au 22 et ça a démarré le 18 au Burskoburg. Voilà, juste pour l'annonce un peu performance, scène ultra contemporaine. Ainsi se quitte la conspiration des planches. Merci à tout le monde. On a vu le mouton et la baleine à l'océan Nord sur l'immigration clandestine. Je pense à You sur Tiananmen au théâtre du Rideau de Bruxelles. Kwaeri, la question du métissage et Miroir, l'existentialisme, métaphysique, philosophie de la vie.
De Pessoa
par Elvire Brison, apparemment un beau petit bijou que nous disait Elisabeth. À la semaine prochaine, bonne planche dans le froid et la neige, à se réchauffer dans nos théâtres. À la semaine prochaine.
Des petits soucis nous empêchent de vous fournir nos podcasts en ce moment, mais ce sera réglé d'ici quelques jours. Donc rendez-vous sur demandezleprogramme.be et on vous signalera également sur notre page Facebook La Conspiration des Planches. Merci de nous rejoindre et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. À la semaine prochaine. La Conspiración.